Chapitre 12, où l'on retrouve le docteur Louis, aigrisomnia, où il est démontré que l'autopsie du cœur est plus difficile que celle du corps. Peut-être nos lecteurs, en se rappelant dans quelle position difficile nous avons laissé M. de Charny, nous saurons-ils quelque gré de les ramener dans cette antichambre des petits appartements de Versailles, dans laquelle le brave marin, que ni les hommes ni les aimants n'avaient jamais intimidé, avait fui de peur de se trouver mal devant trois femmes, la reine, André et Madame de Lamotte. Arrivé au milieu de l'antichambre, M. de Charny avait en effet compris qu'il était impossible d'aller plus loin. Il avait, tout chancelant, étendu les bras. On s'était aperçu que les forces lui manquaient et l'on était venu à son secours. C'est alors que le jeune officier s'était évanoui et au bout de quelques instants était revenu à lui sans se douter que la reine l'avait vu et peut-être fut accourue à lui dans un premier mouvement d'inquiétude si André ne l'eût arrêté, bien plus encore par une jalousie ardente que par un froid sentiment des convenances. Au reste, bien avait pris à la reine de rentrer dans sa chambre à l'avis donné par André, quel que fût le sentiment qui eût dicté cet avis, car à peine la porte s'était-elle refermée sur elle, qu'à travers son épaisseur elle entendit le cri de l'huissier « Le roi !» C'était en effet le roi qui allait de ses appartements à la terrasse et qui voulait, avant le conseil, visiter ses équipages de chasse qu'il trouvait un peu négligés depuis quelque temps. En entrant dans l'antichambre, le roi, qui était suivi de quelques officiers de sa maison, s'arrêta. Il voyait un homme renversé sur l'appui d'une fenêtre et dans une position à alarmer les deux gardes du corps qui lui portaient secours et qui n'avaient pas l'habitude de voir s'évanouir pour rien des officiers. Aussi, tout en soutenant M. de Charny, criait-il « Monsieur, monsieur, qu'avez-vous donc ?» Mais la voix manquait au malade, il lui était impossible de répondre. Le roi, comprenant la gravité de ce silence, accéléra sa marche. « Mais oui, dit-il, oui, c'est quelqu'un qui prend naissance. » À la voix du roi, les deux gardes se retournèrent et, par un mouvement machinal, lâchèrent M. de Charny, qui, soutenu par un reste de force, tomba, ou plutôt se laissa tomber sur les dalles avec un gémissement. « Oh, messieurs, dit le roi, que faites-vous donc ?» On se précipita, on releva doucement M. de Charny, qui avait complètement perdu connaissance, et on l'étendit sur un fauteuil. « Mais, cria le roi tout à coup en reconnaissant le jeune officier, c'est M. de Charny !»« M. de Charny ?» s'écrièrent les assistants. « Oui, le neveu de M. de Suffren !» Ces mots firent un effet magnifique. Charny fut en un moment inondé d'eau de senteur, ni plus ni moins que s'il se fût trouvé au milieu de 10 femmes. Un médecin avait été mandé, il examina vivement le malade. Le roi, curieux de toute science et compatissant à tous les maux, ne voulut pas s'éloigner. Il assistait à la consultation. Le premier soin du médecin fut d'écarter la veste et la chemise du jeune homme afin que l'air touchât sa poitrine, mais en accomplissant cet acte, il trouva ce qu'il ne cherchait point. « Une blessure ?» dit le roi, redoublant d'intérêt et s'approchant de manière à voir de ses propres yeux. « Oui, oui, » murmura M. de Charny en essayant de se soulever et en promenant autour de lui des yeux affaiblis. « Une blessure ancienne qui s'est rouverte, ce n'est rien, rien. » Et sa main serrait imperceptiblement les doigts du médecin. Un médecin comprend ou doit comprendre tout. Celui-là n'était pas un médecin de cour, mais un chirurgien des communs de Versailles. Il voulut se donner de l'importance. « Oh, ancienne, cela vous plaît à dire, monsieur. Les lèvres sont trop fraîches, le sang est trop vermeil. Cette blessure n'a pas 24 heures. » Charny, à qui cette contradiction rendit ses forces, se remit sur ses pieds et dit « Je ne suppose pas que vous m'appreniez à quel moment j'ai reçu ma blessure, monsieur. Je vous dis et je vous répète qu'elle est ancienne. » Alors, en ce moment, il aperçut et reconnut le roi. Il boutonna sa veste comme honteux d'avoir eu un aussi illustre spectateur de sa faiblesse. « Le roi, dit-il, oui, monsieur Charny, oui, moi-même, qui bénis le ciel d'être venu ici pour vous apporter un peu de soulagement. »« Une égratignure, sire, » balbutia Charny, « une ancienne blessure, sire, voilà tout. » ancienne ou nouvelle, dit Louis XVI, la blessure m'a fait voir votre sang, sang précieux, d'un brave gentilhomme. À qui 2 heures dans son lit rendront la santé, ajouta Charny, et il voulut se lever encore, mais il avait compté sans ses forces. Le cerveau embarrassé, les jambes vacillantes, il se souleva pour retomber aussitôt dans le fauteuil. Allons, dit le roi, il est bien malade. Oh oui, fit le médecin d'un air fin et diplomate qui sentait sa pétition d'avancement. Cependant, on peut le sauver. Le roi était honnête homme. Il avait deviné que Charny cachait quelque chose. Ce secret lui était sacré. Tout autre l'eût été cueillir aux lèvres du médecin qui l'offrait si obligeamment, mais Louis XVI préféra laisser le secret à son propriétaire. « Je ne veux pas, dit-il, que monsieur de Charny court aucun risque en retournant chez lui. On soignera monsieur de Charny à Versailles. On appellera vite son oncle, monsieur de Suffren, et quand on aura remercié monsieur de ses soins, et il désignait l'officieux médecin, on ira chercher le chirurgien de ma maison, le docteur Louis. Il est, je crois, de quartier. » Un officier courut exécuter les ordres du roi. 2 autres s'emparèrent de Charny et le transportèrent au bout de la galerie dans la chambre de l'officier des gardes. Cette scène se passa plus vite que celle de la reine et de monsieur de Crone. Monsieur de Suffren fut mandé, le docteur Louis appelé en remplacement du surnuméraire. Nous connaissons cet homme honnête, sage et modeste, intelligence moins brillante qu'utile, courageux laboureur de ce champ immense de la science, où celui-là est plus honoré qui récolte le grain, où celui-là n'est pas moins honorable qui ouvre le sillon. Derrière le chirurgien, penché déjà sur son client, s'empressait le bailli de Suffren, à qui une estafette venait d'apporter la nouvelle. L'illustre marin ne comprenait rien à cette syncope, à ce malaise subit. Lorsqu'il eut pris la main de Charny et regardé ses yeux ternes, « Étrange, dit-il, étrange, savez-vous, docteur, que jamais mon neveu n'a été malade ?»« Cela ne prouve rien, monsieur le bailli, dit le médecin. » L'air de Versailles est donc bien lourd, car, je vous le répète, j'ai vu Olivier en mer pendant 10 ans, et toujours vigoureux, droit comme un mât. « C'est sa blessure, dit un des officiers présents. »« Comment, sa blessure? Olivier n'a jamais été blessé de sa vie. » « Oh, pardon, répliqua l'officier en montrant la batiste rougie, mais je croyais... » Monsieur de Suffren vit le sang. « c'est bon, fit avec une brusquerie familière le docteur qui venait de sentir le pouls de son malade. N'allons pas discuter l'origine du mal. Nous avons le mal. Contentons-nous-en et guérissons-le si c'est possible. » Le bailli aimait les propos sans réplique. Il n'avait pas accoutumé les chirurgiens de ses équipages à ouater leurs paroles. « Est-ce bien dangereux, docteur ? » demanda-t-il avec plus d'émotion qu'il n'en voulait montrer. « À peu près comme une coupure de rasoir au menton. Très bien, remerciez le roi, messieurs. Olivier, je te viendrai voir. » Olivier remua les yeux et les doigts, et comme pour remercier à la fois son docteur qu'il quittait et le docteur qui lui faisait lâcher prise. Puis, heureux d'être dans un lit, heureux de se voir abandonné à un homme plein d'intelligence et de douceur, il feignit de s'endormir. Le docteur renvoya tout le monde. Le fait est qu'Olivier s'endormit, non sans avoir remercié le ciel de tout ce qui lui était arrivé, ou plutôt de ce qui ne lui était pas advenu de mal en des circonstances si graves. La fièvre s'était emparée de lui, cette fièvre régénératrice, merveilleuse de l'humanité, sève éternelle qui fleurit dans le sang de l'homme et servant les desseins de Dieu, c'est-à-dire l'humanité, fait germer la santé dans le malade ou emporte le vivant au milieu de la santé. Quand Olivier eut bien ruminé avec cette ardeur des fiévreux, sa scène avec Philippe, sa scène avec la reine, sa scène avec le roi, il tomba dans un cercle terrible que le sang furieux vient jeter comme un filet sur l'intelligence. Il délira. 3 heures après, on eut pu l'entendre de la galerie où se promenaient quelques gardes, ce que remarquant, le docteur appela son laquais et lui commanda de prendre Olivier dans ses bras. Olivier poussa quelques cris plaintifs. « Roule-lui la couverture sur la tête !»« Et qu'en ferai-je » dit le valet. « Il est trop lourd et se défend trop. Je vais demander l'assistance à l'un des messieurs de garde. » « Vous êtes une poule mouillée si vous avez peur d'un malade, » dit le vieux docteur. « Monsieur, Et si vous le trouvez trop lourd, c'est que vous n'êtes pas fort comme je l'avais cru. Je vous renverrai donc en Auvergne. » La menace fit son effet. Charny, criant, hurlant, délirant et gesticulant, fut enlevé comme une plume par l'Auvergnat à la vue des gardes du corps. Ceux-ci questionnaient Louis et l'entouraient. « Messieurs, dit le docteur en criant plus fort que Charny pour couvrir ses cris, vous entendez bien que je n'irai pas faire une lieue toutes les heures pour visiter ce malade que le roi m'a confié. Votre galerie est au bout du monde. » « Où le conduisez-vous alors, docteur ?»«
Chez moi, comme un paresseux que je suis. J'ai ici, vous le savez, deux chambres. Je le coucherai dans l'une d'elles, et après-demain, si personne ne se mêle de lui, je vous en rendrai compte. »
« Mais, docteur, dit l'officier, je vous assure qu'ici, le malade est très bien. Nous aimons tous monsieur de Suffren. Et,
oui, oui, je connais ces soins-là, de camarade à camarade. Le blessé a soif, on est bon pour lui, on lui donne à boire et il meurt. Au diable, les bons soins de messieurs les gardes. On m'a tué ainsi 10 malades. »
Le docteur parlait encore que déjà Olivier ne pouvait plus être entendu.
« Oui, da, poursuivit le digne médecin, c'est fort bien fait, c'est puissamment raisonné, il n'y a qu'un malheur à cela, c'est que le roi voudra voir le malade, et s'il le voit, il l'entendra. Diable, il n'y a pas à hésiter, je vais prévenir la reine, elle me donnera un conseil. »
Le bon docteur, ayant pris cette résolution, avec cette promptitude d'homme à qui la nature compte les secondes, inonda d'eau fraîche le visage du blessé, le plaça dans un lit, de façon qu'il ne se tuât pas en remuant ou en tombant, il mit un cadenas au volet, ferma la porte de la chambre à double tour, et la clé dans sa poche se rendit chez la reine, après s'être assuré, en écoutant au dehors, que pas un des cris d'Olivier ne pouvait être perçu ou compris. Il va sans dire que, pour plus de précautions, l'Auvergnat était enfermé avec le malade. Il trouva juste à cette porte Madame de Misery, que la reine expédiait pour prendre des nouvelles du blessé. Elle insistait pour entrer. « Venez, madame, venez, dit-il, je sors. »«
Mais, docteur, la reine attend. »«
Je vais chez la reine, madame. »«
La reine désire. »«
La reine en saura tout autant qu'elle en désire savoir, c'est moi qui vous le dis, madame, allons. » Et il fit si bien qu'il força la dame de Marie-Antoinette à courir pour arriver en même temps que lui. La reine attendait la réponse de Madame de Misery, elle n'attendait pas le docteur. Celui-ci entra avec sa familiarité accoutumée. « Madame, dit-il tout haut, le malade auquel le roi et votre majesté s'intéressent va aussi bien qu'on va quand on a la fièvre. » La reine connaissait le docteur, elle savait toute son horreur pour les gens qui, disait-il, poussent des cris entiers pour des demi-souffrances. Elle se figura que M. de Charny avait un peu outré sa position. Les femmes fortes sont disposées à trouver faibles les hommes forts.
« Le blessé, dit-elle, est un blessé pour rire. »«
Fit le docteur. »«
Une égratignure. »«
Mais non, non, madame. Enfin, égratignure ou blessure, tout ce que je sais, c'est qu'il a la fièvre. » »«
Pauvre garçon, une fièvre assez forte. »«
Une fièvre terrible. »
« Ben, fit la reine avec effroi, je ne pensais pas que, comme cela, tout de suite, la fièvre. »
Le docteur regarda un moment la reine.
« Il y a fièvre et fièvre, répliqua-t-il.
« Oh, mon cher Louis, tenez, vous m'effrayez, vous qui, d'ordinaire, êtes si rassurant, je ne sais vraiment pas ce que vous avez ce soir. »
« Rien d'extraordinaire. »
Ah, par exemple, vous vous retournez, vous regardez de droite et de gauche, vous avez l'air d'un homme qui voudrait me confier un grand secret.
Et qui dit non?
Vous voyez bien, un secret à propos de fièvre.
Mais oui,
de la fièvre de monsieur de Charny.
Mais oui,
et vous me cherchez pour ce secret.
Mais oui.
Vite au fait, vous savez que je suis curieuse. Tenez, commençons par le commencement.
Comme petit Jean, n'est-ce pas?
« Oui, oui, mon cher docteur. »«
Eh bien, madame ?»«
Eh bien, j'attends, docteur. »«
Non, c'est moi qui attends. »«
Mais quoi ?»« Que vous me questionniez, madame. Je ne raconte pas bien, mais si on me fait des demandes, je réponds comme un livre. »«
Eh bien, je vous ai demandé comment va la fièvre de monsieur de Charny. »«
Non, c'est mal débuté. » Demandez-moi d'abord comment il se fait que monsieur de Charny soit chez moi, dans une de mes deux petites chambres, au lieu d'être dans la galerie ou dans le poste de l'officier des gardes.
Soit, je vous le demande, en effet, c'est étonnant. Eh bien, madame, je n'ai pas voulu laisser monsieur de Chardy dans cette galerie, dans ce poste, comme vous voudrez, parce que monsieur de Chardy n'est pas un fiévreux ordinaire. La reine fit un geste de surprise. Que voulez-vous dire? Monsieur de Charny, quand il a la fièvre, délire tout de suite. Oh, fit la reine en joignant les mains. Et, poursuivit Louis en se rapprochant de la reine, lorsqu'il délire, le pauvre jeune homme, il dit une foule de choses extrêmement délicates à entendre pour messieurs les gardes du roi ou toute autre personne. Docteur! Ah, dame, il ne fallait pas me questionner si vous ne vouliez pas que je répondisse. Dites toujours, cher docteur. Et la reine prit la main du bon savant. Ce jeune homme est un athée, peut-être, et dans son délire, il blasphème. Non pas, non pas, il a au contraire une religion très profonde. Il aurait exaltation, peut-être, dans ses idées. Exaltation, c'est le mot. La reine composa son visage et, prenant ce superbe sang-froid qui accompagne toujours les actes des princes habitués au respect des autres et à l'estime d'eux-mêmes, faculté indispensable au rang de la terre pour dominer et ne pas se trahir, « Monsieur de Charny, dit-elle, m'est recommandé. Il est un neveu de monsieur de Suffrène, notre héros. Il m'a rendu des services. Je veux être à son égard comme serait une parente, une amie. Dites-moi donc la vérité. Je dois, je veux l'entendre. » « Mais moi, je ne puis vous la dire, répliqua Louis, et puisque votre majesté tient si fort à la connaître, je ne sais qu'un moyen, c'est que votre majesté entende elle-même. De cette façon, si quelque chose est dit à tort par ce jeune homme, la reine n'en voudra ni à l'indiscret qui aura laissé pénétrer le secret, ni à l'imprudent qui l'aura étouffé. « J'aime votre amitié, s'écria la reine, et crois dès à présent que monsieur de Charny dit des choses étranges dans son délire. Des choses qu'il est urgent que votre majesté entende pour les apprécier, fit le bon docteur. Et il prit doucement la main émue de la reine. « Mais d'abord prenez garde, s'écria la reine, je ne fais point ici un pas sans avoir quelque charitable espion derrière moi. » Vous n'aurez que moi ce soir. Il s'agit de traverser mon corridor, qui a une porte à chaque extrémité. Je fermerai celle par laquelle nous entrerons, et nul ne sera près de nous, madame. Je m'abandonne à mon cher docteur, fit la reine. Et prenant le bras de Louis, elle se glissa hors des appartements, toute palpitante de curiosité. Le docteur tint sa promesse. Jamais roi, marchant au combat ou faisant une reconnaissance dans une ville de guerre, jamais reine, escortée en aventure, ne fut plus soigneusement éclairée par un capitaine des gardes ou un grand officier du palais. Le docteur ferma la première porte, s'approcha de la deuxième, à laquelle il colla son oreille. « Eh bien, dit la reine, c'est donc là qu'est votre malade ?»« Non, madame, il est dans la seconde pièce. Oh, s'il était dans celle-ci, vous l'eussiez entendu du bout du corridor. Écoutez donc à cette porte. » On entendait en effet le murmure inarticulé de quelques plaintes. Il gémit, il souffre, docteur. Non pas, non pas, il ne gémit pas du tout. Il parle bel et bien. Tenez, je vais ouvrir la porte. Mais je ne vais pas entrer près de lui, s'écria la reine en se rejetant en arrière. Ce n'est pas non plus cela que je vous propose, dit le docteur. Je vous parle seulement d'entrer dans la première chambre, et de là, sans crainte d'être vu ou de voir, vous entendrez tout ce que dira le blessé. Tous ces mystères, toutes ces préparations me font peur, murmura la reine. Que sera-ce donc lorsque vous aurez entendu, répliqua le docteur, et il entra seul près de Charny. Vêtu de sa culotte d'uniforme dont le bon docteur avait dénoué les boucles, sa jambe nerveuse et fine prise dans un bas de soie aux spirales d'ovale et de nacre, ses bras étendus comme ceux d'un cadavre et tout raide dans les manches de batiste froissée, Charny essayait de soulever sur l'oreiller sa tête plus lourde que si elle eût été de plomb. Une sueur bouillante ruisselait en perles sur son front et collait à ses tempes les boucles dénouées de ses cheveux. Abattu, écrasé, inerte, il n'était plus qu'une pensée, qu'un sentiment, qu'un reflet. Son corps ne vivait plus que sur cette flamme, toujours animée et s'irritant elle-même dans son cerveau comme le lumignon dans la veilleuse d'albâtre. ce n'est pas une vaine comparaison que nous avons choisie, car cette flamme, seule l'existence de Charny, éclairait fantastiquement et d'une façon adoucie certains détails que la mémoire seule n'eût pas traduits en long poème. Charny en était à se raconter lui-même son entrevue dans le fiacre avec la dame allemande rencontrée de Paris à Versailles. « Allemande, allemande !» répétait-il toujours. « Oui, allemande, nous savons cela, » dit le docteur, « route de Versailles. »« Reine de France !» s'écria-t-il tout à coup. « Eh !» fit Louis en regardant dans la chambre de la reine. « Rien que cela, qu'en dites-vous, madame ?»« Voilà ce qu'il y a d'affreux, » murmura Charny, « c'est d'aimer un ange, une femme, de l'aimer follement, de donner sa vie pour elle, et de n'avoir plus en face, quand on s'en approche, qu'une reine de velours et d'or, un métal ou une étoffe, pas de cœur. » « Oh !» dit le docteur en riant d'un rire forcé. Charny ne fit pas attention à l'interruption. « J'aimerais, dit-il, une femme mariée. Je l'aimerais avec cet amour sauvage qui fait que l'on oublie tout. Eh bien, je dirais à cette femme, il nous reste quelques beaux jours sur cette terre. Ceux qui nous attendent en dehors de l'amour vaudront-ils ces jours-là? Viens, ma bien-aimée, tant que tu m'aimeras et que je t'aimerai, ce sera la vie des élus. » Après, et bien après, ce sera la mort, c'est-à-dire la vie que nous avons en ce moment. Donc, gagnons les bénéfices de l'amour. Pas mal raisonné pour un fiévreux, murmura le docteur, bien que cette morale fût des moins serrées. Mais ces enfants, s'écria tout à coup Charny avec rage, elle ne laissera pas ces deux enfants. Voilà l'obstacle, hic nodus, fit Louis en étanchant la sueur du front de Charny, avec un sublime mélange de raillerie et de charité. Oh, reprit le jeune homme, insensible à tout, des enfants, cela s'emportera bien dans les pans d'un manteau de voyage, des enfants. Voyons, Charny, puisque tu emportes la mer, elle, plus légère qu'une plume de fauvette dans tes bras, puisque tu la soulèves sans rien sentir qu'un frisson d'amour au lieu d'un fardeau, est-ce que tu n'emporterais pas aussi les enfants de Marie ? Ah ! Il poussa un cri terrible. Les enfants d'un roi, c'est si lourd qu'on en sentirait le vide dans une moitié du monde. Louis quitta son malade et s'approcha de la reine. Il la trouva debout, froide et tremblante. Il lui prit la main, elle avait aussi le frisson. « Vous aviez raison, dit-elle, c'est plus que du délire, c'est un danger réel que court ce jeune homme, si on l'entendait. »« Écoutez, écoutez, » poursuivit le docteur, « non, plus un mot. » Il s'adoucit, « tenez, le voilà qui prie. » En effet, Charny venait de se soulever et joignait les mains. Il fixait de grands yeux étonnés dans le vague et le chimérique infini. « Marie, » dit-il d'une voix vibrante et douce, « Marie, j'ai bien senti que vous m'aimiez. Oh, je n'en dirai rien. Votre pied, Marie, s'était approché du mien dans le fiacre, et je me suis senti mourir. Votre main a descendu sur la mienne. Là, là, je n'en dirai rien, c'est le secret de ma vie. Mon sang a beau couler, Marie, de ma blessure. Le secret ne sortira pas avec lui. Mon ennemi a trempé son épée dans mon sang. » Mais s'il a un peu de mon secret à moi, il n'a rien du vôtre. Ne craignez donc rien, Marie. Ne dites même pas que vous m'aimez. C'est inutile, puisque vous rougissez, vous n'avez rien à m'apprendre. Oh, fit le docteur, ce n'est plus seulement de la fièvre. Alors, voyez, comme il est calme, c'est, fit la reine avec inquiétude. C'est une extase, madame. L'extase ressemble à la mémoire. C'est en effet la mémoire d'une âme, lorsqu'elle se souvient du ciel. « J'en ai entendu assez, » murmura la reine, si troublée qu'elle essaya de fuir. Le docteur l'arrêta violemment par la main. « Madame, madame, » dit-il, « que voulez-vous ? » ?»« Rien, docteur, rien. Mais si le roi veut voir son protégé, oui, oh, ce serait un malheur. Que dirais-je ? Docteur, je n'ai pas une idée, je n'ai pas une parole. Ce spectacle affreux m'a navré. » Vous lui avez pris sa fièvre à cet extatique, dit tout bas le docteur. Il y a là 100 pulsations au moins. La reine ne répondit pas, dégagea sa main et disparut. Le docteur demeura pensif, regardant s'éloigner la reine. Puis, à lui-même et en secouant la tête, « Il y a dans ce château, murmura-t-il, des mystères qui ne sont pas du ressort de la science. Contre les uns, je m'arme de la lancette et je perce la veine pour les guérir. » Contre les autres, je m'arme du reproche et leur perce le cœur. les guérirai-je ? Puis, comme le mal était passé, il ferma les yeux de Charny, resté ouvert et hagard, lui rafraîchit les tempes avec de l'eau et du vinaigre, et disposa autour de lui ses soins qui changent l'atmosphère brûlante du malade en un paradis de délices. Alors, ayant vu le calme revenir sur les traits du blessé, remarquant que ses sanglots se changeaient tout doucement en soupirs, que de vagues syllabes s'échappaient de sa bouche au lieu de funestes paroles, « Oui, oui, il y avait non seulement sympathie, mais encore influence, dit-il. Ce délire s'était levé comme pour venir au-devant de la visite que le malade a reçue. Oui, les atomes humains se déplacent comme dans le règne végétal les poussières fécondantes. Oui, la pensée a des communications invisibles, les cœurs ont des rapports secrets. » Tout à coup, il tressaillit et se retourna à moitié, écoutant à la fois de l'oreille et de l'œil. « Voyons, qui est encore là ? » murmura-t-il. En effet, il venait d'entendre comme un murmure et un frôlement de robe à l'extrémité du corridor. « Il est impossible que ce soit la reine, » murmura-t-il. « Elle ne reviendrait pas sur une résolution probablement invariable. Voyons. » Et il alla doucement ouvrir une autre porte donnant aussi sur le corridor, et avançant la tête sans bruit, il vit à 10 pas de lui une femme vêtue de longs habits aux plis immobiles et pareille à la statue froide et inerte du désespoir. Il faisait nuit. La faible lumière placée dans le corridor ne pouvait l'éclairer d'un bout à l'autre, mais par une fenêtre passait un rayon de lune qui portait sur elle et qui la faisait visible jusqu'au moment où un nuage passerait entre elle et le rayon. Le docteur rentra doucement, franchit l'espace qui séparait une porte de l'autre, puis, sans bruit mais rapidement, il ouvrit celle derrière laquelle cette femme était cachée. Elle poussa un cri, étendit les mains et rencontra les mains du docteur Louis. « Qui est là ? » demanda-t-il avec une voix où il y avait plus de pitié que de menace, car il devinait à l'immobilité même de cette ombre qu'elle écoutait plus encore avec le cœur qu'avec l'oreille. « Moi, docteur, moi, » répondit une voix douce et triste. Quoique cette voix ne fût pas inconnue du docteur, elle n'éveilla en lui qu'un vague et lointain souvenir. « Moi, André de Tavernet, docteur. »« Ah, mon Dieu, qu'y a-t-il ? » s'écria le docteur. « Est-ce qu'elle s'est trouvée mal ?»« Elle ? » s'écria André. « Elle ? Qui donc, elle ?» Le docteur sentit qu'il venait de commettre une imprudence. « Pardon, j'ai vu tout à l'heure une femme s'éloigner. Peut-être était-ce vous ?»« Ah oui, » dit André, « il est venu une femme avant moi ici, n'est-ce pas ?» Et André prononça ces paroles avec une ardente curiosité qui ne laissa aucun doute au docteur sur le sentiment qui les avait dictés. « Ma chère enfant, dit le docteur, il me semble que nous jouons aux propos interrompus. De qui me parlez-vous ? Que me voulez-vous ? Expliquez-vous. » « Docteur, reprit André avec une voix si triste qu'elle alla jusqu'au fond du cœur de celui qu'elle interrogeait, « Bon docteur, n'essayez pas de me tromper, vous qui avez pris l'habitude de dire la vérité. Avouez qu'une femme était ici tout à l'heure, avouez-le-moi aussi bien, je l'ai vue. Et qui vous dit qu'il n'est venu personne ? Oui, mais une femme, docteur. Sans doute une femme, à moins que vous ne comptiez soutenir cette thèse qu'une femme n'est femme que jusqu'à l'âge de 40 ans. « Celle qui est venue avait 40 ans, docteur, » s'écria André, respirant pour la première fois. « Ah, quand je dis 40 ans, je lui fais grâce encore de 5 ou 6 bonnes années, mais il faut être galant avec ses amis, et Madame de Misery est de mes amis, et même de mes bonnes amies. »« Madame de Misery ? Sans doute, c'est bien elle qui est venue. Et pourquoi diable, ne vous le dirais-je pas si c'était une autre ? Oh, c'est que... Mais en vérité, les femmes sont toutes les mêmes, inexplicables. Je croyais cependant vous connaître, vous, particulièrement. Eh bien non, je ne vous connais pas plus que les autres, et c'est à se damner. Bon, cher docteur, assez. Venons-en au fait. André le regarda avec inquiétude. Est-ce qu'elle s'est trouvée plus mal ? Demanda-t-il. Mais qui cela ? Mais par Dieu, la reine ! La reine ? Oui, la reine pour qui Madame de Misery est venue me chercher tout à l'heure, la reine qui a ses suffocations, ses palpitations, triste maladie, ma chère demoiselle, incurable. Donnez-moi donc de ses nouvelles, si vous êtes venu de sa part, et retournons auprès d'elle. » Et le docteur Louis fit un mouvement qui indiquait son intention de quitter la place où il se trouvait. Mais André l'arrêta doucement et respirant plus à l'aise. « Non, cher docteur, dit-elle, je ne viens point de la part de la reine. J'ignorais même qu'elle fût souffrante. Pauvre reine, si je l'eusse su... Tenez, pardonnez-moi, docteur, mais je ne sais plus ce que je dis. Je le vois bien. Non seulement je ne sais plus ce que je dis, mais ce que je fais... Oh, ce que vous faites, moi, je le sais, vous vous trouvez mal. » Et en effet, André avait lâché le bras du docteur, sa main froide retombait tout le long de son corps, elle s'inclinait, livide et froide. Le docteur la redressa, la ranima, l'encouragea. André fit alors sur elle un violent effort. Cette âme vigoureuse, qui ne s'était jamais laissée abattre ni par la douleur physique, ni par la douleur morale, tendit ses ressorts d'acier. « Docteur, dit-elle, vous savez que je suis nerveuse et que l'obscurité me cause d'affreuses terreurs. Je me suis égarée dans l'obscurité et de là l'état étrange où je me trouve. Et pourquoi, diable, vous y exposez-vous à l'obscurité? Qui vous y force, puisque personne ne vous envoyait ici, puisque rien ne vous y amenait? » « Je n'ai pas dit rien, docteur. J'ai dit personne. » Ah, des subtilités, ma chère malade, nous sommes mal ici pour en faire. Allons ailleurs, surtout si vous en avez pour longtemps. 10 minutes, docteur, c'est tout ce que je vous demande. 10 minutes, soit, mais pas debout. Mes jambes se refusent positivement à ce mode de dialogue. Allons nous asseoir. Où cela? Mais sur la banquette du corridor, si vous voulez. Et là, personne ne nous entendra, vous croyez, docteur? Demanda André avec effroi. Personne. Pas même le blessé qui est là, continua-t-elle du même ton, en indiquant au docteur cette chambre éclairée par un doux reflet bleuâtre dans laquelle son regard plongeait. Non, dit le docteur, pas même ce pauvre garçon, et j'ajouterai que si quelqu'un nous entend, à coup sûr, ce ne sera pas celui-là. André joignit les mains. Oh mon Dieu, il est donc bien mal, dit-elle. Le fait est qu'il n'est pas bien, mais parlons de ce qui vous amène. Vite, mon enfant, vite, vous savez que la reine m'attend. Eh bien, docteur, dit André en poussant un soupir, nous en parlons, ce me semble. Quoi, monsieur de Charny? Mais c'est de lui qu'il s'agit, docteur, je venais vous demander de ses nouvelles. Le silence avec lequel le docteur Louis accueillit les paroles auxquelles il devait s'attendre cependant fut glacial. En effet, le docteur rapprochait en ce moment la démarche d'André et la démarche de la reine. Il voyait ces deux femmes mues par un même sentiment, et aux symptômes il croyait reconnaître que ce sentiment était un violent amour. André, qui ignorait la visite de la reine et qui ne pouvait lire dans l'esprit du docteur tout ce qu'il y avait de triste bienveillance et de miséricordieuse pitié, prit le silence du docteur pour un blâme, peut-être un peu durement formulé, et elle se redressa, comme d'habitude, sous cette pression, toute muette qu'elle fût. « Cette démarche, vous pouvez l'excuser, ce me semble, docteur, dit-elle, car monsieur de Charny est malade d'une blessure reçue dans un duel, et cette blessure, c'est mon frère qui la lui a faite. »« Votre frère ? » s'écria le docteur Louis. « C'est monsieur Philippe de Tavernay qui a blessé monsieur de Charny ?»« Sans doute. Ah, mais j'ignorais cette circonstance. » Mais maintenant que vous la savez, ne comprenez-vous pas que je doive m'enquérir de l'état dans lequel il se trouve? Oh, si fait, mon enfant, dit le bon docteur, enchanté de trouver une occasion d'être indulgent. J'ignorais, moi, je ne pouvais deviner la véritable cause. Et il appuya sur ces derniers mots de manière à prouver à André qu'il n'adoptait ses conclusions que sous toute réserve. « Voyons, docteur, dit André, en s'appuyant des deux mains au bras de son interlocuteur et en le regardant en face. « Voyons, dites toute votre pensée. »« Mais je l'ai dite, pourquoi ferais-je des restrictions mentales ?»« Un duel entre gentilshommes, c'est chose banale, c'est un événement de tous les jours. » La seule chose qui pourrait donner de l'importance à ce duel, ce serait le cas où nos deux jeunes gens se seraient battus pour une femme. » Pour une femme, docteur? Oui, pour vous, par exemple. Pour moi? André poussa un profond soupir. Non, docteur, ce n'est pas pour moi que monsieur de Charny s'est battu. Le docteur eut l'air de se contenter de la réponse, mais d'une façon ou de l'autre, il voulut avoir l'explication du soupir. « Alors, dit-il, je comprends, c'est votre frère qui vous a envoyé pour avoir un bulletin de santé de l'état du blessé. »«
Oui, c'est mon frère, oui, docteur, » s'écria André.
Le docteur la regarda à son tour en face. « Oh, ce que tu as dans le cœur, âme inflexible, je vais bien le savoir, » murmura-t-il. Puis, tout haut, « Eh bien donc, dit-il, je vais vous dire toute la vérité, comme on la doit à toute personne intéressée à la connaître. Reportez-la à votre frère et qu'il prenne ses arrangements en conséquence. Vous comprenez ?»«
Non, docteur, car je cherche ce que vous voulez dire par ces mots, qu'il prenne ses arrangements en conséquence. »
Voyons, un duel, même à présent, n'est pas chose agréable au roi. Le roi ne fait plus observer les édits, c'est vrai, mais quand un duel a fait scandale, sa majesté bannit ou emprisonne.
C'est vrai, docteur.
Et quand par malheur il y a eu mort d'homme, alors là, le roi est impitoyable. Eh bien, conseillez à votre frère de se mettre à couvert pour un temps donné.
Docteur, s'écria André, docteur, monsieur de Charny est donc bien mal?
« Écoutez, chère demoiselle, je vous ai promis la vérité, la voici. Vous voyez bien ce pauvre garçon qui dort là-bas, ou plutôt qui râle dans cette chambre. »«
Docteur, oui, » repartit André d'une voix étranglée.
« Eh bien, s'il n'est pas sauvé demain à pareille heure, si la fièvre qui vient de naître et qui le dévore n'a pas cessé, monsieur de Charny, demain à pareille heure, sera un homme mort. »
André sentit qu'elle allait pousser un cri. Elle se serra la gorge, elle s'enfonça les ongles dans les chairs pour éteindre dans la douleur physique un peu de cette angoisse qui lui déchirait le cœur.
Louis ne put voir sur ses traits l'effrayant ravage que cette lutte avait produit. André se dominait comme une femme spartiate.
« Mon frère, dit-elle, ne fuira pas. Il a combattu monsieur de Charny en homme de cœur. S'il a eu le malheur de le frapper, c'était à son corps défendant. S'il l'a tué, Dieu le jugera. »
« Elle n'était pas venue pour son compte, se dit le docteur. C'est donc pour la reine, alors. Voyons si sa majesté a poussé la légèreté jusque-là.
« Comment la reine a-t-elle pris ce duel ? Demanda-t-il.
La reine, je ne sais pas, repartit André, qu'importe à la reine.
Mais monsieur de Tavernay lui est agréable, je suppose.
Eh bien, monsieur de Tavernay est sauf. Espérons que sa majesté défendra elle-même mon frère si on l'accusait.
Louis, battu des deux côtés dans sa double hypothèse, abandonna la partie.
Je ne suis pas un physiologiste, dit-il, je ne suis qu'un chirurgien. Pourquoi diable, quand je sais si bien le jeu des muscles et des nerfs, vais-je me mêler du jeu des caprices et des passions des femmes?
Mademoiselle, vous avez appris ce que vous désiriez savoir. Faites ou ne faites pas fuir monsieur de Tavernay, cela vous regarde. Quant à moi, mon devoir est d'essayer de sauver le blessé, cette nuit, sans quoi la mort, qui continue tranquillement son œuvre, me l'enlèverait dans les 24 heures. Adieu.
Et il lui ferma doucement, mais nette, la porte sur les talons. André passa une main convulsive sur son front, se vit seul, seul avec cette épouvantable réalité. Il lui sembla que déjà la mort, dont venait de parler si froidement le docteur, descendait sur cette chambre et passait en blanc suaire dans le corridor obscur. Le vent de la funèbre apparition glaça ses membres. Elle s'enfuit jusqu'à son appartement, s'enferma sous un triple tour de clé et, tombant à genoux sur le tapis de son lit, « Mon Dieu !» s'écria-t-elle avec une énergie sauvage, avec des torrents de larmes brûlantes. « Mon Dieu ! Vous n'êtes pas injuste, vous n'êtes pas insensé, vous n'êtes pas cruel, mon Dieu. Vous pouvez tout, vous ne laisserez pas mourir ce jeune homme qui n'a pas fait de mal et qui est aimé en ce monde. Mon Dieu, nous autres, pauvres humains, nous ne croyons vraiment qu'au pouvoir de votre bienfaisance, bien qu'en toute occasion nous tremblions devant le pouvoir de votre colère. Mais moi qui vous supplie, j'ai été assez éprouvé en ce monde, j'ai assez souffert sans avoir commis de crime. Eh bien, je ne me suis jamais plainte, même à vous, je n'ai jamais douté de vous. Si aujourd'hui que je vous prie, si aujourd'hui que je conjure, si aujourd'hui que je demande, que je veux la vie d'un jeune homme, si aujourd'hui vous me refusiez, ô mon Dieu, je dirais
que vous avez abusé de moi en toutes vos forces, que vous êtes un dieu de sombre colère, de vengeance inconnue. Je dirai, oh, je blasphème, pardon, je blasphème, et vous ne me frapperez pas, pardon, pardon, vous êtes bien le dieu de la clémence et de la miséricorde. André sentit sa vue s'éteindre, ses muscles pliés. Elle se renversa, inanimée, les cheveux épars, et resta comme un cadavre sur le parquet. Lorsqu'elle se réveilla de ce froid sommeil et que tout lui vint à l'esprit, fantômes et douleurs, « Mon Dieu, murmura-t-elle avec un accent sinistre, vous avez été miséricordieux, vous m'avez puni, je l'aime, oh oui, je l'aime, c'est assez, n'est-ce pas? Maintenant, me le tuerez-vous ?